Nous lirons tout d'abord quelques versets dans le chapitre 13 du livre de la Genèse. Il nous est dit à partir du verset 11, « Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot partit vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux, et regarde du lieu où tu es, vers le nord, et vers le midi, et vers l'Orient, et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre. » En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Tout d'abord, j'aimerais faire ressortir quelques points communs entre Abraham et Lot, tout en sachant bien qu'il y a beaucoup de choses qui les différenciaient. Un point commun, Abraham a été un témoin solitaire, comme d'autres avant lui, comme un Abel, comme un Noé. Il était seul. Bien sûr, sa femme l'accompagnait, mais ce qui ressort de la vie d'Abraham, de sa vie de foi, c'est qu'il était un témoin solitaire dans un monde qui était corrompu. Lot aussi a été un témoin solitaire. Il était, semble-t-il finalement, si on ne tient pas compte de ses deux filles, le seul juste dans Sodome. Mais l'un était solitaire dans le pays que Dieu lui avait donné, et l'autre était un témoin solitaire là où il n'aurait jamais dû être. Abraham devait sortir seul. Et ce matin, j'ai posé une question auquel on n'a pas eu de réponse. Je vais la reposer ce soir. Il avait donc pris son neveu, quoique il avait été appelé seul. Est-ce que c'était une erreur, une désobéissance de s'en séparer? Je prendrai dans le Nouveau Testament simplement pour souligner que chaque circonstance doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu à l'aide de l'Esprit Saint. Nous avons dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 13 du livre des Actes, une église modèle pour nous. C'est l'église d'Antioche. Et il y avait des gens remarquables dans cette église d'Antioche. Et beaucoup de dons. Le premier nommé Barnabas, fils de Consolation, le dernier Saul, Saul de Tarse, et comme il servait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors ayant jeûné et prié, leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Ils les laissèrent aller, Saul et Barnabas. Et on voit par la suite qu'ils ont pensé, judicieux, de s'adjoindre un serviteur, Jean-Marc. Et c'est de nouveau une histoire de neveu, parce que Jean-Marc était neveu de Barnabas, comme Lot était neveu d'Abraham. Et on sait ce qui s'est passé lors de ce premier voyage missionnaire. Jean-Marc a été découragé, a abandonné, et cela a causé une dispute plus tard entre Paul et Barnabas. Qui avait raison, qui avait tort? L'Esprit Saint avait dit, mettez à part Paul, Saul et Barnabas. Il n'y avait pas d'ordre positif quant aux serviteurs, mais ils se sont permis, peut-être, d'étendre un tout petit peu l'appel de Dieu. Simplement pour montrer que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut faire, s'il faut continuer de marcher avec quelqu'un. On aura, je pense, l'occasion dans l'entretien d'en reparler. Lot, lui, a marché longtemps avec Abraham avant que sa foi fût mise à l'épreuve. C'est quelqu'un qui vivait un peu de la foi de son oncle, une personnalité remarquable. Si on lit dans le prophète Ésaïe, on peut traduire un passage en disant qu'Abraham a été tiré d'entre les principaux de la ville d'Ur. Dans le pays de Canaan, il a été reconnu comme un prince de Dieu. C'était quelqu'un de digne, de remarquable, qui s'imposait. Eh bien, Lot vit à côté de cet homme, et voilà que maintenant qu'il a fait son choix, qu'il s'approche de Sodome, il doit vivre de sa propre foi. Va-t-il résister? Abraham est un voyageur. Il est un pèlerin, comme nous le voyons dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il n'est pas un vagabond. Le premier vagabond dont il est parlé dans la parole de Dieu, c'est Caïn. Alors, ça n'est pas un exemple à imiter d'être un vagabond. Par contre, nous devons imiter l'exemple d'Abraham, qui était un voyageur, un pèlerin, qui était un étranger dans ce monde. Et pourquoi était-il un étranger? Est-ce que c'est parce qu'il était venu d'Ur dans un pays étranger, en Canaan? Pas du tout, il était étranger parce qu'il n'avait pas atteint encore sa demeure finale, c'est-à-dire le ciel. C'est très différent. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter dans ce monde. Lot, lui, n'a jamais renoncé à lui-même. Il a choisi ce qui lui paraissait, au moment présent, la meilleure solution. Il a choisi la solution la plus avantageuse et puis, en fait, il a choisi le pire pour lui-même. Parce que dans cette aventure, il a tout perdu. Alors, quand nous avons des choix à faire, il faut voir au-delà de l'aspect matériel des choses. Il faut voir l'engagement moral, ce que ça comporte sur le plan spirituel. Et nous le verrons dans un moment. Dieu, si nous lui demandons conseil, nous éclairera certainement. L'apôtre Pierre nous dit que Lot était un juste accablé. C'est terrible d'être juste et accablé. Il est constamment accablé, mais c'était un juste. Sur quelle base peut-on affirmer que c'était un juste? Si nous n'avions pas la prière d'Abraham pour demander à Dieu si il détruirait ces villes de Sodome et de Gomorre à cause de la présence de justes, si nous n'avions pas cette prière, on ne pourrait jamais penser que Lot était un juste réel. Mais sur la base de la prière d'Abraham, parce que Lot a été délivré, nous pouvons en conclure, comme l'apôtre Pierre le dit, que Lot était un juste. Lot a été fait prisonnier, on le verra dans un petit moment. Et en contraste, Abraham a toujours été un homme libre. Et l'homme de foi, la femme de foi, est un être libre. Mais celui qui vit pour lui-même devient rapidement prisonnier de sa propre personnalité et de beaucoup de choses. On a aussi dit, et c'est le frère Bellet qui le relève sur la base de comparaison avec le Lévitique et le Deutéronome, que Lot avait un vêtement d'étoffe mélangée. Il n'était pas permis de mélanger deux sortes d'étoffes dans les habits. C'est un mélange. Abraham, lui, c'est très différent, avait un vêtement parfois souillé. Et voilà que Lot s'approche donc de Sodome. Sodome et Gomorre sont mentionnés ensemble dans la parole de Dieu une trentaine de fois, ça n'est pas rien. Sodome et Gomorre ont été détruites avec d'autres villes comme Adma et Tseboïm. Et c'est un exemple qui a frappé, un exemple de destruction. Ce que Lot estimait être comme le jardin de l'Éternel, quand il a fait son choix, est devenu un lieu de destruction totale et qui reste encore aujourd'hui un lieu de destruction totale. Mais ne croyons pas que Sodome, Gomorre sont des exemples uniques dans l'histoire de l'humanité au point de vue débauche, immoralité. On n'a pas le temps de lire les passages, mais le prophète Ézéchiel au chapitre 16 nous dit que Jérusalem a fait pire que Sodome. Et puis dans Apocalypse 11, on voit que Jérusalem fera encore pire. Puis aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. On vit dans ce monde-là. Si on n'est pas attiré par les richesses de l'Égypte, moralement parlant, eh bien, on peut être attiré par l'immoralité, la débauche de Sodome. Et il faut pas se leurrer. Mais beaucoup de choses dans notre société, dans nos pays, aujourd'hui, ici en Europe comme aux États-Unis, et je le dis sans insister, mais sont dirigées par des gens qui prêchent l'homosexualité. Lot, qui avait été berger, devient un sédentaire. Il s'installe. Abraham, lui, est resté un berger toute sa vie. Voilà un contraste. Lot n'aura plus de tente, il aura une maison. Je ne sais pas s'il a gardé des troupeaux. De berger, on le trouve aux portes de Sodome, assis là. Peut-être était-il même responsable, dans une certaine mesure, des affaires de la ville. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, quand on était assis à la porte de la ville, en général, on avait une fonction. Et les choses vont aller de mal en pis pour lui. Alors, nous voulons lire encore quelques versets dans le chapitre 14. Il y a donc un conflit entre quatre rois et cinq autres rois. Quatre rois qui viennent de la puissance du nord, la région de qui deviendra Babylone, etc. Et puis d'autres qui viennent de ces villes de la plaine de la mer Salée, où on trouvait Sodome et Gomorre. Et il y a un conflit, on ne va pas lire tous ces versets. Mais il nous est dit au verset 10 du chapitre 14, « Et la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume, et les rois de Sodome et Gomorre s'enfuirent et y tombèrent, et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne, et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres, et ils s'en allèrent, ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et son bien, ils s'en allèrent, car Lot habitait dans Sodome. » Nous avons là trois catégories de personnages qui correspondent aux trois catégories de péchés. Cette puissance qui vient du nord, de la région de Babylone, c'est vraiment l'orgueil de la vie. Cet orgueil de puissance qui caractérise Babel, Babylone, Ninive et toutes ces villes. Et puis, il y a la convoitise de la chair. Ça, c'est Sodome et Gomorre et les rois de cette région-là. Et il y a la convoitise des yeux. Eh bien, c'est le péché dans lequel Lot est tombé. Et il nous est dit au verset 13, il y a un homme qui était échappé, vint et le rapporta à Abraham, l'hébreu qui demeurait auprès des chênes de Mamré, l'amoréen, frère d'Escol et frère d'Abner. Ceux-ci étaient alliés d'Abraham. Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et les frappa, et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tout le bien, ramena aussi Lot, son frère et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Nous avons lu au chapitre précédent que Abraham demeurait à Mamré, à Hébron. Il demeurait près des chênes de Mamré, à Hébron, et le mot Hébron signifie communion. Il y a deux aspects dans la personnalité d'Abraham. Il y a tout d'abord cette communion avec Dieu. Il bâtit des autels. Il est à Hébron, et le mot Hébron signifie communion ou compagnie. C'est l'aspect contemplatif de la personne d'Abraham. Il est en communion avec son Dieu. Mais il y a un autre aspect de sa personnalité, parce que être contemplatif, c'est bien, mais c'est pas toute la vie. Il faut être actif aussi. Et là, on a un exemple d'activité d'Abraham. Voilà, quelqu'un de sa famille a été emmené prisonnier, eh bien, il va agir tout de suite pour essayer de récupérer Lot et sa famille. Et on voit cet équilibre entre les moments de contemplation, de communion avec Dieu, et les moments d'action, lesquels il ne faut pas que nous les oublions. Verset 17. Et comme il s'en revenait après avoir frappé Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il le bénit et dit, « Béni soit Abraham de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à la courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi, j'ai enrichi Abraham, sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » C'est un petit peu difficile de parler exclusivement de Lot dans un premier temps et exclusivement d'Abraham dans un second temps. Mais si j'ai lu déjà ce passage ici, c'est pour montrer que Lot a été délivré miraculeusement. Et pourtant, cela ne frappera pas son intelligence, son cœur ne sera pas vraiment touché, il retournera à Sodome. Et c'est là que nous le voyons assis à la porte, peut-être comme juge. C'est un homme qui moralise, mais qui n'a pas le courage de prendre position face à la débauche. Il y a des choses épouvantables qui se passeront lors de la visite des deux anges. Il est prêt à offrir ses filles en pâture à la population. Alors, quel témoignage devons-nous avoir dans un monde qui est condamné, qui n'est pas différent du monde qu'on trouvait à Sodome? On ne peut pas tous vivre comme des bergers, comme Abraham. On habite dans des villes, et dans des villes où il y a des lieux de débauche. Comment faire? Comment le croyant doit-il agir? Ou doit-il réagir? Allons-nous chercher à devenir juges, comme peut-être Lot, pour améliorer les choses? Mais à ce moment-là, aujourd'hui, le juge ne doit appliquer que la loi, et cette loi devient de plus en plus une loi contre Dieu. Je rappelle pour nous, Suisses, qu'on a dû voter au mois de février sur la révision du droit pénal en Suisse. Le peuple a accepté, avec une large majorité, cette révision du droit pénal, qui, au point de vue biblique, est une iniquité, parce que le projet, et je cite, offre une meilleure protection du libre arbitre de chacun en matière sexuelle. Voilà où on en est. On sanctionne un laisser-aller sur tous les plans. On ne peut plus rien interdire d'obscène maintenant. Ça n'est plus possible sur la base de la loi. Ces choses-là sont tolérées par la société. Que va-t-on faire? Doit-on rester là, à regarder, à prier, bien sûr? Y a-t-il pas autre chose à faire? J'entendais l'autre jour en France, mais le problème est le même en Suisse. Si je cite la France simplement parce que j'ai les chiffres, mais le problème est le même en Suisse et ailleurs. Dans les procès de mœurs, un procès sur cinq concerne des affaires d'inceste. Bien, on ne va pas s'appesantir trop sur ces choses, mais il faut être conscient que cette analyse des grandes tendances de la société doit être faite par nous chrétiens, pour ne pas nous faire prendre par surprise. Et pour enseigner nos jeunes et les mettre en garde, ils auront à prendre position, et ils ont déjà maintenant à prendre position beaucoup plus tôt que nous avons dû le faire. Et dans des domaines très précis. Alors Dieu va-t-il châtier? Mais avant, oui, on pourrait prendre ce point encore. Au chapitre 18. Il nous est dit au verset 16, et les hommes se levèrent de là, c'est-à-dire ces trois hommes qui sont venus visiter Abraham, et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre? Car je le connais, je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Encore un verset, l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très aggravé, eh bien je descendrai, je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, et sinon je le saurai. Et les hommes se détournèrent de là, et ils allèrent vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. L'histoire d'Abraham est une démonstration extraordinaire du fait que la vie de la foi est surnaturelle. Voilà, il a accueilli trois hommes, et l'un est le Seigneur. Les deux autres sont des anges qui se dirigent vers Sodome. Alors j'insiste là-dessus, il se dirige vers Sodome avant même qu'Abraham ait commencé sa prière. On y reviendra. Alors il y a la prière d'Abraham qui, en fait, n'intercède pas directement pour la vie de Lot parce qu'il sait que Lot, déjà, à deux reprises, a choisi Sodome. Mais il demande à Dieu d'épargner la ville s'il y a 50 justes, etc. C'est une prière qui nous montre jusqu'où peut aller l'audace de la foi. Et Dieu est patient, et c'est Dieu qui met un terme à cette prière, car il est dit au verset 32, peut-être s'en trouvera-t-il 10, et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham s'en retourna en son lieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu révèle aux siens, aux croyants, ce qu'il va faire. Et on peut trouver la même pensée dans Amos 3 au verset 7, dans Hébreux 11 au verset 7. Noé était averti de ce qui allait arriver. Dieu aussi, et nous avons sa parole dans les grandes lignes, nous avertit de ce qui va arriver à ce monde. La prière d'Abraham est aussi un exemple d'intercession intense. Et nous devons nous garder aussi en intercédant de rappeler à Dieu ce qu'il pourrait avoir oublié. Et les anges arrivent à Sodome. C'est au chapitre 19, là où se trouve Lot. Les anges sont envoyés non pour avertir Sodome, mais pour détruire Sodome. Mais il y a encore une autre raison. Ils sont envoyés aussi pour sauver Lot. J'ai dit que ces anges étaient partis vers Sodome avant même qu'Abraham commence sa prière. Autrement dit, avant même qu'Abraham commence d'intercéder, la réponse était déjà là. Et c'est ainsi que Dieu procède, d'une manière mystérieuse, mais c'est ainsi que Dieu procède. Il a déjà mis, avant que nous prononcions une quelconque demande, tout en œuvre pour répondre. Alors nous voyons dans le chapitre 19, il y a la destruction de Sodome, de Gomorrhe, de toutes ces villes de la plaine. Et Lot n'a toujours rien appris. Il ne veut pas suivre les indications des anges. Il est dans un mauvais état après avoir tout perdu. Il préfère encore faire confiance à ses propres idées et non aux anges qui l'ont délivré. Et finalement, il habitera pour un certain temps dans une ville qui s'appelle Tsoar, Shouraki traduit par minuscule. Voilà où il aboutit. Il devra ensuite se réfugier dans une caverne et on sait ce qui s'est passé. De ses deux filles, il a deux enfants, Amon et Moab, qui deviendront les chefs de file de nations importantes, ennemis d'Israël. Mais les captifs d'Amon et de Moab, à la fin des temps, seront rétablis. Croyez-vous que c'est à cause de la foi de Lot? Non, mais certainement à cause de la foi d'Abraham. Alors nous trouvons Abraham à Hébron, qui, comme je l'ai dit, signifie communion, compagnie. Et il n'hésite pas à délivrer son neveu. Dans le chapitre que nous avons lu, chapitre 14, tous les rois en présence sont battus, sauf un, qui surgit là d'une manière mystérieuse. Il y a 4 rois d'un côté, 5 rois de l'autre, ça fait 9, ils sont tous battus progressivement. Ceux de la plaine par les rois du nord, et puis ceux du nord par Abraham lui-même. Mais il y a un 10e roi qui apparaît, c'est Melchisédek, qui lui, là, domine la scène d'une manière absolument suprême. Cette scène est d'une grande beauté, et pourtant c'est un guet-apens dans cette vallée du roi, qui était peut-être nommée ainsi à cause de Melchisédek. Ce Melchisédek apparaît, il est roi de Salem. Melchisédek peut donc dire roi de justice, et puis il est aussi roi de Salem, roi de paix. L'ordre est intéressant, parce que c'est une figure de Christ et de personne d'autre. Il faut d'abord être revêtu de cette justice pour pouvoir connaître la paix. Si nous avons sur la conscience le poids des péchés, si nous pensons que Dieu ne nous a pas justifiés, si nous n'avons pas mis notre foi en l'œuvre de Jésus, bien nous ne pouvons pas avoir la paix. Il est Melchisédek, roi de justice et roi de paix. Comme dans le Nouveau Testament, on trouve toujours la grâce avant la paix. Grâce et paix. Il faut connaître la grâce pour réaliser la paix. Alors, ce Melchisédek, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'apprend, est une figure admirable de Christ comme sacrificateur, comme grand sacrificateur, mais comme sacrificateur en résurrection. Pourquoi? Parce que Melchisédek se présente ici avec 2 choses. Ce n'est pas un repas de roi, mais c'est un repas qui a une signification extrêmement profonde. Il vient avec du pain et du vin, qui nous parle du corps de Christ, qui est donné pour nous de son sang répandu, d'une manière mystérieuse ici, mais tout s'éclaire à la lumière du Nouveau Testament. Et quand nous participons au signe, le pain et le vin, nous nous souvenons des souffrances du Seigneur. Nous proclamons qu'il a passé par la mort, mais qu'il est ressuscité. Alors il y a cette rencontre dans cette vallée, en présence de Melchisédek, quand le roi de Sodome. Pourquoi est-il là? C'est difficile de le dire. Peut-être voulait-il faire la guerre à Abraham et à ses hommes. En tout cas, il est là pour essayer de récupérer des biens et surtout récupérer des âmes, récupérer Lot. Et il y a Abraham de l'autre côté. Abraham, Melchisédek au milieu, et puis le roi de Sodome qui est une image, une figure de notre ennemi à tous, une figure de Satan qui veut les âmes. Les biens, il s'y intéresse peu, mais il veut les âmes, il veut les gens, il veut des personnes. C'est ce que ce roi veut d'Abraham. Ce roi de Sodome a pour nom Béra, qui signifie excellence. Et là aussi, il y a quelque chose qui nous parle de cette puissance de Satan, de cette excellence, dans le sens qu'il était très haut placé avant de connaître la chute par orgueil. Mais ce qui est encourageant, c'est de voir que ce roi de Sodome se présente là, en face de Melchisédek. Pour réclamer Lot des mains d'Abraham, il se présente en roi vaincu. Il est tombé dans les puits de bitume. C'est un roi vaincu. Eh bien, Satan est un roi vaincu, est une puissance vaincue à la croix. C'est extraordinaire tout ce que ce chapitre 14 peut nous enseigner quant à ces vérités. Il y a encore quelque chose de plus. Il se présente comme un fugitif. Il a été vaincu, il s'est enfui, est tombé dans les puits de bitume. Eh bien, Satan aussi est un fugitif. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. N'oublions jamais ceci. Satan est un fugitif si nous lui résistons. Alors, bien sûr qu'Abraham refuse de livrer Lot au roi de Sodome, mais il ne veut pas être débiteur en quoi que ce soit. Et il dit, « J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi, j'ai enrichi Abraham. » Lot, dans cette scène admirable, disparaît. On n'en parle pratiquement pas. Il y a la figure magistrale, centrale de Melchisédek. Et puis, il y a l'attitude d'Abraham qui est très, très digne et qui ne veut rien avoir à faire avec ce roi de Sodome. C'est une grande victoire pour Abraham. Alors, on verra plus tard, au chapitre 15, qu'après les grandes victoires, eh bien, il faut avoir besoin de protection parce que c'est là que Satan, peut-être, vient à l'attaque une nouvelle fois. Et l'Éternel dit à Abraham, chapitre 15, verset 1, « Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Encore un dernier point, l'importance du domicile du croyant. Ce n'est pas un problème facile. Dans notre société, tout est centré sur l'individu, sur le « moi ». Chacun veut faire comme bon lui semble, et puis il est encouragé par la société d'agir ainsi. Que faire? Où habiter? Quelles sont nos motivations? Dans beaucoup de pays, il y a des problèmes de chômage, si bien que, voilà, on ne peut pas peut-être faire ce qu'on veut concernant son activité professionnelle. Habiter près d'un rassemblement de croyants est très désirable, mais est-ce toujours possible? Est-ce même toujours nécessaire? Je pose la question. Patients restent toujours ensemble. Eh bien, il n'y aura pas de nouvelles assemblées qui vont se créer. Faites le compte en Suisse romande. Je ne parle pas pour une autre région, mais faites le compte en Suisse romande depuis 50 ans. Alors, nous avons à avertir les jeunes, avertir nos enfants, qu'ils prennent conscience de ces dangers dans le monde dans lequel on vit. On a souvent dit que le chrétien est comme quelqu'un dans un bateau. L'eau, c'est le monde. Il n'y a pas d'eau dans le bateau quand tout va bien. Mais on peut s'égarer, on peut aller dans les écueils. Il peut y avoir une tempête et voilà que l'eau commence à envahir le bateau. Et il y a la mondanité. Et il y a l'immoralité. Il y a tant de choses qui peuvent être introduites dans nos familles. Je m'arrête ici parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des choses à apporter. J'aimerais juste encore signaler un livre que j'ai trouvé remarquable, qui vient de sortir, qui est un livre sur Abraham, par John Alexander, publié aux éditions de la Maison de la Bible à Genève. Il est vraiment très clair, très bien fait, je vous le recommande, comme les autres brochures qui ont été signalées précédemment. Alors nous pourrions chanter encore un cantique.
Et comme on l'a relevé, le progrès d'Abraham vers l'Égypte ce matin, et on voit ceux de Lot, au chapitre 13, verset 11, verset 10, Lot leva les yeux, il regarde la plaine, il se rappelle de la fertilité de l'Égypte. Il choisit pour lui la plaine. Il dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Comme on l'a relevé, quand les anges viennent, il est assis à la porte de Sodome. Il a une maison où il invite les anges et les reçoit. Pas à pas, il a été pris dans cette ville. Il croyait trouver des avantages. Il était juste, nous dit Pierre, mais il tourmentait son âme à cause de la conduite de ces hommes pervers. On pense à Samson. Samson descend chez les Philistins. Il voit une jeune fille, il veut la prendre. Ses parents le déconseillent, mais il fait quand même comme il entend. Et puis là, en descendant une autre fois, il a la victoire sur le lion. Il y trouve un rayon de miel. Enfin, le mariage. Une semaine, il tourmente son âme tous les jours. Parce que la jeune fille veut absolument qu'il révèle le secret. Et alors, le pauvre Samson veut pas dire, mais alors ça le tourmente tout le temps. Et il y a bien d'autres exemples dans la parole, dans ce genre. Cet égarement qui commence facilement et qui finit malheureusement. Et ensuite, Lot doit s'enfuir de Sodome avec sa femme et ses filles. Il va à Tsoar, puis ensuite il quitte Tsoar, il va dans une caverne. Sa femme a été transformée en statue de sel. Ses filles le trompent. Et Lot finit misérablement, il nous a pas dit comment. Probablement dans sa caverne. Pas à pas, un chemin qui descend. Que ce soit Abraham, que ce soit Lot, ce monde. Abraham est remonté. Dieu lui a fait la grâce de revenir en arrière et de retrouver l'autel. Alors, pour le vrai croyant qui s'égare, il y a un chemin de retour. Mais pour quelqu'un qui a une foi d'éducation qui est bien injuste, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Il n'y a parfois pas de retour, n'est-ce pas? Quant au gouvernement de Dieu, si nous avons été vraiment amenés au Seigneur et qu'on s'égare, on ne perd pas le salut. On perd le témoignage, on perd la récompense, on perd la joie dans le Seigneur. Mais il y a la grâce de Dieu pour ceux qui ont mis quand même une fois leur confiance en lui. Mais il y a des cas, on ne sait pas. On connaît bien plus d'un qui a professé être au Seigneur, qui a même pris sa place à la table du Seigneur, qui a annoncé l'Évangile, qui arrive diverses circonstances et puis il se laisse prendre. Et puis, est-ce que c'était vraiment la foi? Ou est-ce que c'était une foi d'éducation? Parce qu'on a été élevé dans une famille chrétienne. Je ne peux pas dire, le Seigneur sait. Mais c'est tragique. Alors attention, au début, à la suite.
On nous montre que l'épreuve de Lot va commencer au moment précis où, sous la conduite d'Abraham, ils ont quitté l'Égypte. Pour Abraham, c'est pour lui la fin du monde, la fin de l'Égypte. Il a appris là une grande leçon. Il y aura encore des défaillances. Mais il redevient donc le voyageur et le pèlerin dans le pays de Canaan. Lot a rapporté de l'Égypte quelque chose qui le suivra. C'est désormais injuste, la parole nous le dit, mais qui marche par la vue. Il a rapporté d'Égypte la convoitise des yeux. Et cette convoitise des yeux le suivra et le perdra. Lot donc, on l'a dit, regarde vers la plaine, comme le jardin de l'Éternel, comme les plaines d'Égypte. Il s'y engage avec ses troupeaux, puis marche, puis il est dans Sodome, une autorité, nous l'avons vu. Et voilà que nous disions que Sarah est la seule femme dont il sera parlé de l'âge qu'elle avait à sa mort. On a bien parlé de la caverne de Lot, dans laquelle il passera la fin de sa vie. La parole ne signale pas sa mort physique, mais sa mort morale. Sa mort morale. Depuis qu'il est à Sodome, bien sûr, il tourmente son âme juste, mais sa mort morale est déjà là. Et c'est quelque chose qui nous frappe, justement. On a parlé tout à l'heure de cette solitude de Lot. Ce gars dû être pour lui cette solitude, même dans sa famille. Même dans sa famille. Il est revenu seul avec deux filles, et nous savons ce qui est encore arrivé.
Dans la présentation, Abraham aussi, dans un certain sens, a cette solitude, mais il est avec Dieu, ou Dieu est avec lui. Et c'est frappant comme la parole nous rappelle chaque fois qu'il a construit un autel, on ne veut pas dire c'est quatre fois que c'est mentionné, qu'il a construit un autel, il est en contact avec Dieu. Et au moment où Lot est en difficulté, il est au chapitre 14, au verset 13, et un homme est échappé, vint et la rapporta à Abraham l'Hébreu, c'est-à-dire celui qui passe de lieu en lieu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, on a dit, les chênes qui parlent de solidité et de communion. Il est avec Dieu. Alors ce qui frappe, c'est qu'il apprit que son frère, un peu plus loin, avait été emmené captif. Il est renseigné, il est avec Dieu, il est disponible, il a le temps pour les autres. Il aurait pu dire, comme quand Dieu lui a demandé ce qui s'est passé avec Abel, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et combien de fois pour nous, quand on apprend qu'il s'est passé quelque chose, on se demande est-ce que je vais aider. Cet après-midi, on montait tous pour la promenade. On arrive à un endroit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit attroupement des gens qui cherchaient dans les buissons. Et c'était un de nos frères et sœurs qui s'était lancé des clés, qui était parti dans les buissons. Nous avons passé les uns à côté près des autres. On s'est arrêté un petit moment. Moi, je me suis dit, je devrais te baisser, mais tu as eu mal au dos il y a quelque temps, c'est pas le moment. Et j'ai continué. Je disais, Seigneur, ce soir, tu me diras de dire ça, parce qu'il me semble que c'est tellement important. On passe à côté, on est, comme Marc le disait, on est contemplatif. Et alors, en redescendant tout heureux, j'ai vu qu'ils avaient retrouvé les clés. On les a croisés, et j'ai dit, merci Seigneur. L'autre jour, en parlant à quelqu'un, j'appelle une sœur, qui me dit, elle me dit que c'est gentil d'appeler. Elle me dit, il y en a tellement qui me disent, une sœur dans la peine, il y en a tellement qui me disent, oh sœur, je suis en pensée avec vous, on va prier pour vous. C'est tellement mieux de faire un téléphone des fois et de parler. Donc il y a cet équilibre entre le contemplatif, le mystique, qu'est-ce qu'on sait bien parler dans ce domaine, et puis l'actif, à quel moment est-ce que je dois agir? Bien sûr que la Bible, comme on le disait ce matin, dit dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, c'est une bonne chose d'attendre dans le silence le salut de l'Éternel. Mais il y a des moments, c'est extraordinaire de voir qu'Abraham y va avec courage. Il y a, comme au début des Actes, il y a une grande grâce de Dieu pour lui. Il y a une grande puissance et il y a aussi une grande crainte. Et encore une chose qui frappe tellement, c'est qu'Abraham, plus tard, a encore l'occasion d'intercéder pour son frère. Il intercède, il prie pour lui. Et ne trouvez-vous pas que c'est merveilleux que cet homme puisse parler avec Dieu de cette façon, l'ami de Dieu, celui qui ne fait pas de reproche. Du reste, vous avez remarqué dans tous ces textes, ces jours, ça m'a frappé, Dieu ne fait pas de reproche. Il n'y a pas de reproche. C'est celui qui donne toutes choses libéralement et qui ne fait pas de reproche. Et Abraham lui parle et il demande des choses presque impossibles à Dieu. Mais il le demande avec une telle crainte, avec un tel respect. Il ne rabaisse pas Dieu à son niveau, mais il lui parle avec un homme qui a de la crainte. Et il y a un verset de la Bible que je trouve qui est tellement merveilleux, c'est celui du psaume 25 qui dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Lot ne sait rien, il subit tout. Abraham, le vainqueur, est au courant. Et Dieu dit lui-même, on a lu ce verset, je vais parler à Abraham de ce que je m'en vais faire. Est-ce que je le cacherai à Abraham, celui qui a un tel intérêt pour moi, qui m'aime tellement? Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
J'avais appris beaucoup de choses dans la compagnie d'Abraham, et en particulier, nous avons lu au verset 12e que Lot dressa ses tentes à Sodome. Mais ce qu'il n'avait pas appris, c'est que lorsque Abraham dressait sa tente, il construisait aussi un autel. Chapitre 12, nous l'avons vu, verset 8e. Abraham tendit sa tente et il bâtit là un autel. Lorsqu'il est retourné au chapitre 13e, il revient où était sa tente au commencement, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Et puis au verset 18, voyons que Abraham leva ses tentes, vint habiter aux chênes de Mamré, il bâtit là un autel. Pour Lot, il n'y a pas l'autel. Certainement qu'il n'était pas impossible pour un croyant spirituel d'habiter près de Sodome, d'avoir ses tentes, mais il fallait que l'autel soit avec. Il faut cet équilibre. Chez Abraham, ce n'était pas qu'un contemplatif. Il s'occupait de ses tentes, mais il gardait conscience du fait qu'il était ce pèlerin voyageur. Parce qu'il y a l'équilibre des deux. On m'a, il n'y a pas longtemps, présenté une interprétation de la robe du sacrificateur avec ses clochettes et ses grenades, aussi en présentant l'équilibre. Les grenades occupées des bénédictions du peuple, bien entendu, et puis les clochettes, le côté du actif, le côté du témoignage. Équilibre entre les deux choses pour être gardé.
Que sur la base de ce que Pierre dit dans sa deuxième épique concernant Lot, il ne faut pas non plus trop l'accabler. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 2, verset 8. « Car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendait tourmenter de jour en jour, son âme juste à cause de leurs actions. » Verset 7, « S'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée. » À trois reprises, ce mot « juste » est utilisé. Voilà comme le Nouveau Testament relève quelque chose de positif au sujet de Lot, et rien de négatif, comme c'est habituellement le cas dans le Nouveau Testament, en citant l'exemple d'hommes et de femmes de l'Ancien Testament. Une exception près, c'est Élie.
On est frappé par ce que le Seigneur dit lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, nous le savons bien, concernant Capernaum au verset 23, « Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elle serait demeurée jusqu'à aujourd'hui. Il y avait dans Sodome un homme juste, égaré, mais un homme juste, qui tourmentait son âme juste et qui a été sauvé. Et le Seigneur lui-même vient dire que si les miracles qui ont été accomplis dans Capernaum eussent été accomplis dans Sodome, elle serait encore aujourd'hui. Quand Jonas, contre son gré, est allé crier à Ninive, la ville a été sauvée. Si Lot, ce juste, n'avait pas laissé son drapeau dans sa poche, à Sodome, le Seigneur nous laisse entendre qu'il aurait pu avoir égard à cette impiété, cette corruption qui était dans Sodome. Il aurait pu, même dans ces conditions-là, avoir un témoignage positif. Il s'est replié sur lui-même. Il s'est assis à la porte, au milieu des autorités. Il n'a rien dit des autels qu'il avait connus, de ce moment passé avec Abraham, de toute cette vie-là. Il avait un message pour Sodome. Il ne l'a pas délivré.
Un élément de plus à la remarque qui a été faite un peu plus tôt, qu'on ne peut pas tous être des bergers. Il y en a qu'il faut qui habitent en ville. On pourrait peut-être remarquer que d'être berger n'est pas une assurance en soi, que Joseph a été aussi un berger, et puis un berger qui était en compagnie d'autres bergers, qui n'avaient pas une heureuse influence. Le moment était venu où Joseph, bien sûr ce n'est pas notre sujet, mais je pense à Joseph en réponse un peu à ce... Je dirais même ce cri un peu. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont dans la ville? Qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes, pour les enfants qui grandissent, au milieu de tout cet élément d'immoralité? Est-ce que le Seigneur ne nous encourage pas par l'exemple de Joseph, qui est sorti du cadre d'être un berger? Bien sûr, c'est dans le cadre d'une prison. Ça vaut bien mieux qu'une ville. Et puis, on sait les tentations dont il a été l'objet. Et la remarque qui est faite plusieurs fois, l'Éternel était avec Joseph. Il y a de cela plusieurs années, un frère qui a eu très à cœur les jeunes donnait un message dans la ville de New York. Ce n'est pas le meilleur des milieux, la ville de New York. Puis il donnait un message sur les villes de refuge. Et puis il voyait un exemple de ville de refuge, d'une part dans l'assemblée locale, et d'autre part dans le foyer. Que nos foyers soient des villes de refuge pour les enfants. Et cela, c'était, comme je l'ai dit, dans la ville de New York. Alors, on vient de voir si Lot avait rendu témoignage. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans la ville de Sodome? Il n'y a pas là l'encouragement pour nous. Même au moment où les ténèbres deviennent plus sombres encore, plus noires, il y a encore toujours, par la grâce de Dieu, la possibilité que toi, tu sois une lumière dans ton coin sombre. Dis-moi, dans le mien.
La famille de Lot comportait au minimum 8 personnes, puisque Lot lui-même et sa femme, il avait 2 filles non mariées, et il avait des gendres, donc au minimum 2, et les 2 autres filles de Lot. Donc un minimum de 8 personnes. Et il n'est pas dit s'il n'y en avait pas encore d'autres. Donc déjà là, dans son propre foyer, son témoignage n'a pas été probant. Il semblait aux yeux de ces gendres qu'il se moquait. Donc, il n'avait pas une attitude coutumière d'être sérieux et de dire la vérité. Et là aussi, c'est un exemple négatif à ne pas suivre, que dans notre foyer, vis-à-vis de nos plus proches, notre témoignage soit tel que lorsqu'on doit donner une parole d'avertissement, on puisse être cru.
Reste devant nos yeux, devant nos cœurs, c'est ce mot du chapitre 13 et au verset 10, Lot lève les yeux pour regarder en bas, alors que tout au long de l'Écriture, nous avons une invitation expresse à lever les yeux, que ce soit dans Genèse 6 déjà, à propos de Noé dans l'arche, le jour à l'arche, que ce soit dans l'Ancien Testament plusieurs fois encore, en Zacharie, qui lève les yeux plusieurs fois et qui voit dans le Nouveau Testament, eh bien, il a levé les yeux pour regarder en bas. C'est, je crois, un passage unique dans l'Écriture et un passage qui nous arrête, qu'il me soit accordé, qu'il nous soit accordé de lever les yeux vers celui qui nous aime, qui trace notre chemin, qui conduit nos pas vers la maison où nous sommes attendus, aimés, où des places ont été préparées à un prix si élevé. Un autre point que je souligne simplement, c'est l'intercession d'Abraham que nous avons dans le chapitre 18, versets 24 à 33. Et il y a un mot tellement précieux dans le chapitre 19, alors au verset 29, il est écrit « Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. » Dieu se souvint. Que nous soyons des sœurs, des frères qui intercèdent, Dieu se souvint.
Non-témoignage de Lot, comment prendre le verset 9 du chapitre 19 et dire « Retire-toi » et dire « Cet individu est venu pour séjourner ici et veut faire le juge. Maintenant, nous te ferons pique à eux. » Et ils pressaient beaucoup Lot et s'approchèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
À propos de lever les yeux aussi, dans le verset 14 du chapitre 13, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi et vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Voilà une promesse qui est précisée, elle avait déjà été donnée au chapitre 12, mais ici précisée dans ses dimensions et dans sa durée, pour toujours. Lot n'a levé les yeux qu'en bas, il n'a vu qu'une plaine, Abraham a eu le privilège, en levant ses yeux du lieu où il était, de voir le pays tout entier, aussi bien vers l'Orient que vers l'Occident, aussi bien vers le Nord que vers le Midi.
On verra alors au chapitre 22, quand Abraham est sur ce chemin douloureux pour aller à Morija, le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. Est-ce que je vais continuer ou m'arrêter? J'ai marché 3 jours, comme Dieu m'a demandé, mais je vois le lieu de loin, et c'est là que je vais offrir mon fils. À la foi d'Abraham l'a conduit jusqu'à la résurrection, n'est-ce pas? D'où aussi, en figure, il reçut Isaac. Et quelle leçon il a apprise par la substitution du bélier à la place de son fils. Mais il a levé ses yeux de loin et il a continué. Et dans des épreuves, on peut lever les yeux aussi et persévérer dans la foi par la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a 5 ou 6 passages dans la vie d'Abraham où il lève les yeux.
Et au chapitre 12, verset 8, où il s'était installé tout d'abord, il ne nous est pas dit comme il regardait, mais on a quand même sa position géographique. Et il tendit sa tente, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Nous avons déjà dit, Haï veut dire un tas de ruines. Eh bien, c'est la même direction dans laquelle, plus tard, Lot a regardé et il a vu les choses tellement attractives, il semblait comme le jardin de l'Éternel. Il semble que là, si on peut faire cette application, Abraham, il voyait les choses comme Dieu les voit, et regardant dans cette direction, il voit déjà Haï, et c'est la ruine. Et de l'autre côté, il voyait la maison de l'Éternel, n'est-ce pas, Bethel? Voir les choses comme Dieu les voit. Et chez Habacuc, il y a au second chapitre un beau verset aussi. Au premier chapitre, il est tout enseveli sous ses problèmes. Il parle de cet oracle, de tout ce chagrin autour de lui. Chapitre 2, il dit « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. » Eh bien, Habacuc, il n'a pas continué de se laisser écraser par les circonstances. Il s'est mis sur cette tour pour voir les choses comme Dieu les voit. Et à la fin du livre, nous le voyons, il est sur les hauts lieux. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rendra mes pieds pareils à ceux des biches et il me fera marcher sur mes lieux élevés. Cherchez à voir les choses comme Dieu les voit, n'est-ce pas? Et la question aussi, pourquoi est-ce que Lot est de nouveau rentré à Sodome? Il a eu la chance de voir ce que Sodome était. Il a été arraché de cette ville par cette guerre. Abraham l'a ramené. Et voilà, il y avait cette chance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait Melchizedek, il y avait aussi Abraham, qui sans doute aurait été prêt de dire, on va un peu vendre de nos troupeaux, afin qu'il y ait assez de pâturage. Mais j'aimerais tellement que tu reviennes chez moi. Et là, il semble qu'il est retiré dans la ville de Sodome. Est-ce que ce serait parce qu'il avait déjà sa femme, qui sans doute venait de Sodome? Une femme peut être une très bonne influence pour un mari. Et grâce à Dieu, Dieu en donne de telles. Mais une femme peut être aussi une influence qui fait que dans un moment où on peut prendre une décision, elle l'influence de retourner là où il ne faudrait pas aller. Et c'est tragique de voir plus tard le jugement sur cette femme une fois qu'il doit quitter cette ville.
Il y a de merveilleux, une fois encore, on le constate
dans la lecture et la méditation de tels passages qui ont été écrits il y a des millénaires. C'est de voir qu'on peut les lire et les méditer avec la même fraîcheur qu'à ce moment-là. Si on prend à la lettre des expressions telles qu'elles nous sont données en application pour nous, s'entend. Dans ce dernier paragraphe du chapitre 13, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient, tout le pays je te le donnerai. » Et puis au verset 17, « Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Si nous avons le privilège de lever les yeux en haut, nous croyants, d'aujourd'hui, eh bien, c'est une promenade merveilleuse que nous pouvons faire avec les secours de l'Esprit de Dieu, réalisant que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ,
sommes transportés dès maintenant dans le royaume du Fils de l'amour du Père, et c'est quelque chose d'extraordinaire. En attendant de prendre d'une manière réelle possession de l'héritage qui nous est conservé dans le ciel, nous pouvons dès maintenant lever les yeux en haut et nous promener dans le ciel, dans ces sphères élevées dans lesquelles le Seigneur habite. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la réalisation pratique pour nous de ce que Abraham pouvait faire à ce moment-là quant à lui-même.
Quand Lot a quitté Abraham,
on s'est posé la question, pourquoi l'a-t-il laissé partir ? Dans son cœur, il ne l'a pas oublié. Et dès qu'il apprend que celui qu'il appelle son frère est dans le danger, il y aura donc, dans ce chapitre 14, immédiatement le déploiement de la force de la toute petite troupe d'Abraham. Et Abraham va d'abord rencontrer l'ennemi sous la forme du lion. Et il va le vaincre avec la force que Dieu lui donne. Et l'ennemi va prendre une deuxième forme, un deuxième aspect, celui du serpent sous le roi de Sodome. Mais entre ces forces qui se succèdent, Melchisédek est intervenu, l'ambassadeur du Dieu Très-Haut. Et sous une forme qui nous touche, il va commencer à restaurer le corps de ce combattant fatigué, du pain, du vin. Il restaure son corps. Et puis, il va restaurer, fortifier son cœur. Il lui apporte une bénédiction, mais exceptionnelle, verset 19. Sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il le bénit et dit, « Béni soit Abraham de la part du Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Je t'apporte une bénédiction de la part du Dieu Très-Haut, possesseur des biens et de la terre. » Mais quand le possesseur des biens et de la terre le prend en charge, quelle pâle figure prend le roi de Sodome avec ses quelques biens qu'il vient présenter à Abraham? Il a à son côté le possesseur des biens et de la terre. Et Abraham refuse. Les biens refusent que le roi de Sodome prenne les âmes aussi, dont Lot, nous l'avons dit. Et à cause de cette action d'Abraham, dès le début du chapitre 15, Dieu lui apparaît, ne crains point, « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » C'est le rappel de ce qui s'est passé au chapitre 14. « Ton bouclier, je l'ai été dans ce combat, et je le resterai, car il y aura d'autres combats. Et ta très grande récompense, tu as résisté à la séduction du serpent. Eh bien, sache que quand tu refuseras les offres du monde, je serai moi, et toujours là, ta très grande récompense. »
C'est un verset frappant lorsque le roi de Sodome dit à Abraham au verset 21 qu'on vient de mentionner, « Donne-moi les personnes ou donne-moi les âmes et prends les biens pour toi. » Appliquer ça à plus d'une occasion, à la responsabilité d'un père de famille qui a des enfants. Il peut s'acharner à sa profession. Il peut se donner beaucoup de peine. C'est pour ma famille. Mais négliger les âmes de ses enfants. Ne pas avoir le temps de lire la parole avec eux, de leur parler du Seigneur, de s'intéresser à eux, de vivre un peu avec eux. Donne-moi les âmes. Prends-les bien pour eux. Il faut savoir dire non.
Dans ce sens, j'ai beaucoup aimé les versets cités que tu as mis, je crois, je pense, Georges, au bas de la page 4. Ça vaut la peine de les lire et puis de regarder juste ces deux lignes au bas de la page 4 des notes. Il y a Proverbe 23:4. Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses. Et puis, au chapitre 22, verset 29, as-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. J'aurais dû finir, excusez-moi, le verset 4, j'aimerais aller plus loin. Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses. Finis-en avec ta prudence, jetteras-tu tes yeux sur elles. Déjà, elles ne sont plus, car certes, elles se font des ailes, et comme l'aigle s'envole vers les cieux. C'est Lot qui finit dans une caverne, probablement. Et puis, ce qui me semble tellement important dans la comparaison de ces deux versets, c'est ces trois mots qui sont mis. D'un côté, il y a l'acharnement. Je travaille, je veux pour moi. Et je n'ai pas le temps de m'occuper des choses de Dieu, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. À l'autre extrême, il y a la diligence. Parce que on voit dans les Thessaloniciens que l'apôtre Paul disait, il y en a qui disaient, je suis sauvé, maintenant je n'ai plus rien à faire. Et il leur dit, mais il faut travailler, il ne faut pas profiter de dire maintenant, je vais simplement être paresseux, je ne vais pas user de diligence. Et il y a donc un équilibre à avoir, cet équilibre, cette sagesse dont on parlait ce matin déjà. Chaque fois on se dit, c'est Dieu qui peut nous donner cette sagesse pour savoir comment gérer notre temps. Et on le disait l'année passée, déjà, gérer le temps pour des jeunes, c'est un point. Gérer le temps, on pense que, on se dit, ben oui, il faut que j'apprenne quand je suis jeune. Et puis après, on se dit, maintenant, oui, il y a mes enfants, il faut vraiment bien organiser mon temps. Mais il y a aussi, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge ici, il y a aussi le problème de gérer son temps à la retraite. Et il y a une chose qui me semblait tellement importante, c'est, puisqu'on dispose de plus de temps, de pratiquer cette intercession. De prier pour les autres. Des fois, on est à l'arrière, plus à l'arrière. On aimerait tellement être actif, comme Abraham, des fois, et puis être vainqueur. Puis ça, des fois, le Seigneur dit, maintenant, vis dans tes limites. Et pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes qui sont dans cette salle, chacune ont des limites, et ces limites, c'est une source de souffrance. On peut avoir perdu un être cher. On peut avoir perdu certaines facultés. On ne peut peut-être plus courir comme avant. On se fatigue plus rapidement. Et alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir vivre dans nos limites. Et dans ces limites, pour nous qui sommes plus âgés, il y a tout le temps disponible pour intercéder. Plutôt peut-être que de ne penser qu'à se reposer en se disant « Maintenant c'est fini, j'ai terminé ma vie. » Et puis pour nous comme croyants, c'est le début dans un sens. Et je crois qu'on peut le dire, il y a des personnes à cette table qui ne sont plus toutes jeunes et puis qui donnent l'impression que c'est encore le début pour elles.
Au verset 14 du chapitre 14, il y a, me semble-t-il, un enseignement intéressant pour faire suite à ce qui vient d'être dit. Il est dit, « Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. » Abraham, comme dit le proverbe 17:17, « L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. » Il se met en souci pour son neveu. Et ce qui me frappe, c'est qu'il est le moteur pour mettre en campagne les hommes exercés nés dans sa maison. Abraham, à cet instant particulier, est un entraîneur. Et un entraîneur de pas n'importe qui. Il est dit des hommes exercés. Donc exercés, il s'entend, à la guerre, qui sont prêts à aller au combat, nés dans sa maison, qui font partie de nos jours, je dirais, des croyants de la famille de Dieu, nés dans sa maison, exercés pour combattre, pour poursuivre. Et alors, on peut lire dans Éphésiens ce passage qui nous parle justement des combats que nous avons à faire lorsqu'il est parlé au chapitre 6, que verset 12. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes, ce qui étaient les ennemis d'alors, du temps d'Abraham. Alors, il nous est dit de prendre l'armure et, pour rejoindre ce que notre frère disait, au verset 18, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications. Sommes-nous des entraîneurs pour nos frères et sœurs pour cette lutte par la prière, comme Éphésiens nous le montre? Une question que chacun, on peut se poser. Bien sûr, il y a la prière individuelle, personnelle, mais de prier ensemble. Et ici, dans Éphésiens, tout est au pluriel. Alors, je crois que c'est important. Je trouvais beau de voir que Abraham a été cet entraîneur. Il a mis en campagne ses hommes exercés.
Et dont la mère et ses rois associés d'une part et le roi de Sodome d'autre part. Pour combattre contre ces rois, il avait conscience d'être en relation avec le Dieu Tout-Puissant, car Dieu s'était révélé au Père, et il le dit à Moïse, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais pour combattre et pour résister aux offres de Sodome, il a fallu que la révélation de Dieu lui soit donnée sous une autre appellation, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Dieu sait aussi à quel ennemi ou quelle forme d'ennemi, quel aspect l'ennemi se présentera à nous, et il nous fera découvrir dans sa parole ce qu'il est pour nous et qui va répondre tout spécialement aux besoins du monde.
Une raison aussi pourquoi Abraham a pu renoncer cette offre formidable, on pourrait dire, du roi de Sodome. Il avait accepté le pain et le vin avant. Et l'application a été faite. Nous recommençons un nouveau temps chaque dimanche matin. Et si nous commençons par recevoir le pain et le vin par le vrai Melchizedek, si nous réalisons ce que cela veut dire, pas seulement pour l'instant, mais pour toute notre vie, eh bien, quand lundi matin, le roi de Sodome viendra et nous offrira les biens, si nous lui donnons les âmes, eh bien, nous aurons la force de dire non.
Et même depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit. Remarquons que la réponse qu'il lui fait au départ, c'est exactement ce que Melchisédek lui a dit. Il est ambassadeur du Dieu Tout-Puissant, possesseur des cieux et de la terre. Abraham peut dire, j'ai levé la main, et le Dieu Très-Haut, possesseur des biens et de la terre. Et alors, il s'arrête à ces choses absolument insignifiantes. D'apparence, elles sont insignifiantes. La courroie d'une sandale, si elle est bien fermée, si elle est bien assujettie, permet de s'éloigner jusqu'à l'autre côté du monde. Un fil, un seul fil suffit pour lier quelqu'un, et le lier de façon grave quelquefois. Des choses insignifiantes, mais qui sont dangereuses, là, dans ce cas particulier, si l'on se laisse séduire.
Marc, dans son introduction, a juste fait allusion à Satan qui est vaincu, et il a cité ce verset de Jacques qui me semble être très important maintenant, Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. » Il avait tendu sa main vers le Dieu Très-Haut. Sa main était prise, elle était occupée par le Dieu Très-Haut. À ce moment-là, il peut dire « Résistez au diable et il s'enfuira. » C'est le roi de Sodome. « Et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est la communion.
Question par notre frère Favet auquel il n'y a pas eu de réponse. Je pense qu'il faut y revenir. La question était que signifie ce verset au chapitre 19, verset 9. Et il dit « Retire-toi », et il dit « Cet individu est venu pour séjourner ici, il veut faire le juge, maintenant nous te ferons pique à eux. » Et ils pressaient beaucoup Lot et s'approchèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux, vers dans la maison et fermèrent la porte. Au chapitre précédent, que dit l'Éternel à Abraham au verset 20 ? Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très aggravé, eh bien je descendrai, je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Sinon, je le saurai. Autrement dit, Dieu connaît toutes choses, bien sûr, mais il fait comprendre à Abraham qu'il veut le vérifier sur place, vraiment, si les choses sont ainsi. C'est comme s'il y avait encore une possibilité d'épargner cette ville, parce que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Alors les deux anges se dirigent vers la ville, et les hommes de la ville se rassemblent autour de la maison de Lot dans le but de violer ces deux anges. Lot a une réaction incompréhensible, il offre ses deux filles. Il refuse, et alors ils veulent Lot maintenant, disant « il veut le faire le juge ici, on va lui faire pis qu'à eux ». C'est-à-dire, ils avaient l'intention de le lyncher. Alors, Lot, qui voulait protéger les deux anges en donnant ses deux filles, maintenant à son tour est protégé par les anges, qui le retirent à l'intérieur de la maison et qui ferment la porte. Et à ce moment-là, ça que je voulais souligner, à ce moment-là, le sort de Sodome est scellé. Cette porte est fermée pour que les hommes de Sodome n'entrent pas dans la maison de Lot, mais les anges n'en sortiront pas pour protéger la ville. Ils sortiront pour juger la ville. Alors l'instruction pour nous, je crois qu'elle est importante, parce qu'il arrivera aussi un jour où une porte sera fermée, elle sort de ce monde, sera scellée. Le Seigneur viendra chercher les siens. Et après cela, la seconde épître aux Thessaloniciens nous dit qu'il y aura une énergie d'erreur qui sera envoyée dans les hommes. Ils ne pourront plus croire à la vérité. Ce sera terminé. Plus de possibilité de repentance. Je crois qu'on a une analogie entre ce qui s'est passé autrefois, une porte a été fermée, et un jour, il y aura une porte fermée et plus possibilité de revenir en arrière. Alors, bien sûr, la leçon pour nous, c'est d'avertir nos contemporains, mais ça n'est pas facile aujourd'hui de parler de ces choses.
S'arrêter là pour ce soir.